un petit moment de travail collectif pour réveiller ceux qui se seraient endormis. Le Seigneur est... Allez au boulot. Le Seigneur est...
Mon berger.
Mon berger. Je le... Il me fait coucher. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit sur les sentiers à cause de son nom. Même si je marche, je ne crains
aucun mal.
Ta houlette et ton bâton, tu dresses devant moi. Tu enduis
ma tête
d'huile, ma coupe déborde. Oui! Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Ok, vous êtes bien réveillés, c'est bon. Ce psaume, on le connaît tous. C'est celui qu'on connaît le mieux. Il est sobre et il est profond. Excusez-moi, je vais virer ce truc. La succession d'images par laquelle le psalmiste nous donne son témoignage nous touche. Sa foi tranquille, son regard optimiste pour l'avenir ont quelque chose de rassurant et de bienfaisant, surtout pour nous aujourd'hui, vu l'époque dans laquelle on est. Le psaume 23 est le psaume d'un homme qui a vécu, beaucoup vécu. Plus que d'un enseignement, plus que d'un appel à la foi, il s'agit dans notre texte d'un témoignage. Un témoignage de vie. Ce que le psalmiste nous dit lui vient de son expérience personnelle avec le Seigneur. C'est le psaume d'un gars qui est plus très jeune, mais qui a beaucoup vécu. Et donc, on peut résumer son message ainsi. Dieu a été pour moi un berger, je n'ai manqué de rien. L'essentiel en tout cas, il prend soin de moi, il est attentif à mes besoins, il me dirige. Il m'accompagne en toutes circonstances, même les plus compliquées, les plus difficiles. Et j'ai confiance en lui pour le reste de mes jours. C'est son témoignage, et en nous donnant son témoignage, il nous lance une invitation. C'est de vivre avec Dieu comme lui a vécu, d'entrer ou de persévérer dans une relation de confiance avec Dieu, et de recevoir tout ce que le psalmiste, lui, a déjà reçu. Nous ne sommes pas invités à être des spectateurs seulement de son témoignage, mais à nous laisser interpeller et fortifier pour notre propre vie. Prenons les différents aspects, certains aspects de ce psaume. L'Éternel est mon berger. Alors l'image du berger, elle n'est pas très fréquente dans le livre des psaumes pour parler de Dieu. Dans les psaumes, on préfère décrire le Seigneur comme un roi, un libérateur, un chef de guerre. L'intérêt du mot berger, c'est qu'il évoque une proximité bien plus grande avec Dieu que les images de roi et de libérateur. En effet, un berger vit au milieu de ses brebis, jour et nuit. Au fil du temps, il apprend à les connaître individuellement. Et les brebis apprennent à le différencier des autres personnes, des autres humains. Le berger est parfois devant pour conduire le troupeau, parfois au milieu pour que le troupeau se rassemble autour de lui, et parfois derrière pour prendre soin de celles qui traînent. Le mot berger évoque aussi la dépendance. Une brebis a besoin du berger pour vivre, pour aller là où l'herbe est bonne, là où il y a de l'eau, et aussi et surtout pour faire face aux difficultés et aux ennemis, comme le loup ou l'ours, parmi d'autres prédateurs. Ce sont tous ces aspects de la relation entre le berger et la brebis qui sont à l'arrière-plan de notre psaume. Le mot berger évoque aussi la bienveillance, car il est de la mission du berger de prendre soin des brebis. C'est par rapport à cette bienveillance que l'on peut distinguer le bon berger du mauvais berger. Finalement, l'image du berger apparaît excellente pour désigner l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu libère son peuple d'Égypte, il prend soin de lui dans le désert, il le protège des ennemis et le soutient dans les moments difficiles. Quand le peuple veut bien que Dieu s'occupe de lui, ce n'est pas toujours le cas. Mais ici, notre psaume utilise l'image du berger pour un témoignage personnel, individuel. Un homme parle de Dieu comme de son berger à lui. Il décrit son existence comme ressemblant à celle d'une brebis dont le berger prend soin en toutes circonstances. Je ne manquerai de rien. Ah, ça nous intéresse. Voilà une affirmation forte et massive. Une parole de confiance inébranlable face au futur. Je ne manquerai de rien. Tout le monde est prêt à dire ça aujourd'hui avec le Covid, la guerre, les problèmes climatiques et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas grand monde qui lève le bras ici, je ne sais pas pourquoi. Qui dit ça ?
Moi.
Plus haut les mains ?
Moi je le dis.
Ah.
Mais toi tu ne...
Il y en a qui ne le disent pas, ok. En tout cas le psalmiste, il le peut. Il le peut. Et son regard optimiste par rapport à l'avenir lui vient simplement de son expérience personnelle. Il suffit pour lui de regarder le passé pour envisager le présent et l'avenir d'une façon plus positive. Je ne manquerai de rien car je n'ai pas manqué jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas manqué de temps de repos et de nourriture. Je n'ai pas manqué de moments de paix ni d'eau à boire. Je n'ai pas manqué de soutien, d'accompagnement par Dieu dans les moments difficiles, d'abattement, d'incertitude, de crainte, peut-être de dépression. Et au fil du temps, il a restauré mon âme, mon être intérieur. Je remarque qu'il m'a finalement conduit sur de bons chemins. Des chemins où je suis resté digne, debout, des chemins de justice. Peut-être que sur le moment, il n'a pas dit ça, mais avec le recul, il peut le dire. Donc voilà tout ce que Dieu a fait pour lui, fait encore et fera dans le futur. Cette énumération est suivie d'un petit bout de phrase qui apporte un éclairage décisif sur l'action de Dieu. Un petit bout de phrase sur lequel on va s'arrêter un moment, c'est « à cause de ton nom, à cause de son nom ». Dieu fait tout cela non parce que le psalmiste le mériterait, parce qu'il est fidèle, sa vie est droite, sa pureté intérieure, ou je ne sais quoi, quelle autre qualité. Pas du tout. Dieu aime le psalmiste et nous aime aussi. Il prend soin du psalmiste et prend soin de nous par amour pour nous. Un amour qui ne s'enracine pas dans nos qualités, mais qui s'enracine dans l'être même de Dieu. Dieu est amour, Dieu aime, c'est sa nature, si on ose dire. Et donc Dieu bénit le psalmiste, non à cause du psalmiste, mais à cause de son nom, à lui, pour manifester sa grâce, sa bienveillance, sa bonté. Ce qu'on appelle la grâce, en théologie chrétienne, en doctrine, hein, la grâce, pas nos mérites, mais juste parce qu'il est comme ça. Et c'est important de se rappeler ça, parce que si la chose qui nous fait passer à côté de la grâce de Dieu, c'est de ne pas en avoir conscience ou de ne pas le croire pour nous. De ne pas le croire pour nous. On pourrait s'arrêter là. Le psalmiste ne manque de rien, tout va bien pour lui, tout ira bien demain. Et on se dirait, il a bien de la chance cet homme, mais sa vie ne ressemble pas tellement à la mienne. Heureusement, le psaume se poursuit et il aborde les difficultés de la vie. Parce que berger ou pas, les problèmes sont là aussi à certains moments de l'existence. Le berger n'est pas celui qui nous préserve de tous les problèmes, c'est celui qui nous conduit dans toutes les circonstances de la vie. Les difficultés qu'affronte le psalmiste sont présentées de deux façons. Le premier, c'est la vallée de l'ombre de la mort, et le deuxième, c'est les adversaires. La vallée de l'ombre de la mort évoque la fragilité humaine. Celle-ci se présente sous diverses formes. La maladie physique, la faiblesse psychologique, la fragilité du corps face à la nature, le danger des animaux sauvages, le froid, et bien sûr la mort elle-même. Celle des amis et des proches qui sont déjà partis, et la sienne proche, et la propre mort du psalmiste qui avance évidemment inéluctablement. Cette image est très générale, elle ne permet pas de savoir exactement par quelle épreuve est passé le psalmiste. Ce qui n'est pas forcément le plus important pour nous, même si on aime toujours avoir des détails croustillants, et la pression nous en fournit régulièrement, on est un peu addict à ça. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que la confiance que le psalmiste a en son berger, qui l'accompagne dans ces moments-là. Et donc, il n'a pas peur, il ne craint aucun mal, ça veut dire qu'il sait qu'il va en sortir un moment. Quelles que soient les souffrances et difficultés du présent, le psalmiste sait que le mal n'aura pas le dernier mot. Et que pour reprendre une phrase célèbre de l'apôtre Paul, rien ne pourra le séparer de l'amour de son berger. Si le psalmiste connaît les difficultés, la souffrance, le deuil même, si Dieu ne le préserve pas de l'expérience humaine dans toute sa diversité, le psalmiste sait que la différence, c'est que Dieu l'accompagne. Il n'est pas seul. Là est la différence. Nous rêvons parfois en tant que chrétiens que Dieu nous préserve de toutes les difficultés de la vie, et on le trouve choquant quand un problème nous arrive. Et c'est vrai que le mal est choquant, en soi. Il y a un an et demi, un couple de nos amis a vu leur fils mourir dans une avalanche. Et c'est vrai que c'était compliqué. Pourquoi Dieu ? Alors qu'on prie, on a prié pour ce garçon. On a encore prié quand il est parti pour que Dieu le garde, et puis quelques jours plus tard, à l'âge de 24 ou 25 ans, il meurt. Il faut du temps pour digérer ça, il faut du temps pour que le deuil passe. C'est choquant. Mais Dieu nous accompagne dans nos épreuves et dans le fait que nous vivons dans un monde marqué par le mal et par les conséquences du péché sous toutes ses formes. Dieu accompagne. L'autre grande difficulté dans la vie du psalmiste est représentée par les adversaires. Les adversaires, les ennemis, sont des personnages courants dans les psaumes. L'expérience du psalmiste, c'est que Dieu lui-même intervient et ne laisse pas le psalmiste seul en face à face avec ses ennemis. Il intervient, et ça c'est intéressant, non pas en écrasant les adversaires, en éliminant les problèmes, mais en élevant le psalmiste. Oui, vous avez vu ça dans le texte ?
Oui.
Il élève le psalmiste par sa bénédiction. Il le fortifie, il dresse une table pour être, il le fortifie. Et là est la différence avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne, il nous fortifie pour pouvoir faire face, alors qu'au départ on n'a pas nécessairement toutes les forces qu'il faut. Il nous fortifie pour faire face et traverser l'épreuve. Ça c'est la logique de l'Écriture. Et non pas, il enlève tous les problèmes pour que ma vie soit cool. Dieu ne nous préserve pas de la difficulté et de l'adversité, mais au travers des expériences difficiles, négatives, il nous fait grandir. Si nous le laissons faire son œuvre en nous, encore une fois. Pour nous, alors venons-en à nous, les ennemis ne sont pas d'abord des personnes, comme pour David. Le Nouveau Testament nous présente plusieurs types d'ennemis, je m'arrête sur deux. Le premier, c'est les puissances mauvaises. Paul dit en Éphésiens 6, 12, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Ouf, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a un débat sur ce que sont ces puissances mauvaises. Certains les comprennent seulement comme des entités purement spirituelles, des esprits mauvais, des anges qui sont rebellés contre Dieu. On en parle souvent dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. D'autres y voient aussi des puissances politiques et économiques qui essayent de nous asservir. On en parle aussi dans le Nouveau Testament et dans les évangiles. Vous voyez à quoi je fais allusion ? Allez, bossez un peu là. Hérode, le renard, mais pas encore. Eh bien, Jésus lui-même nous parle d'un ennemi dangereux qui veut régner sur nos vies et qu'il appelle Mammon. Mammon. pourrait dire c'est juste du fric. Non, 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 c'est plus que ça. Il y a une puissance derrière ça. Et une puissance qui a des... qui a une dynamique spirituelle aussi. Une puissance qui veut nos âmes, qui veut nos cœurs, nos esprits. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut être esclave de deux maîtres, en effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. C'est violent, hein ? Il y a des puissances économiques, des systèmes politiques qui veulent nous asservir en nous invitant à mettre au cœur de nos vies la soif d'argent ou du pouvoir. Oui ? Pour le pouvoir, Jésus dit, vous savez que dans le monde, les grands dominent et font peser lourdement sur eux l'autorité, sur les gens en dessous, leur autorité. Et Jésus dit, pas de ça chez moi, pas de ça dans mon église. On est dans ce genre de choses. Et c'est difficile. On est dans une culture où on est invité, où on est centré sur l'argent, en avoir le plus possible. Alors en plus, on nous fait peur, donc avec l'idée que plus on en a, mieux ça ira, que nos vies seront à l'abri de toute chose si on gagne suffisamment. Et on a besoin de plus en plus d'argent dans le système dans lequel on vit, il faut bien le dire. C'est construit comme ça. Et on peut être dominé par la peur de manquer. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent aujourd'hui, la peur de manquer. Ça peut aussi être, effectivement, la domination. On parle beaucoup de domination. Domination de l'homme sur la femme. Domination de ceux qui ont du pouvoir sur les autres. Et là aussi, on a besoin d'être au clair là-dessus. Parce que du pouvoir, on en a en général sur quelqu'un, sur nos enfants, sur nos collègues, sur les élèves qu'on peut avoir, sur nos parents qui vieillissent, enfin que sais-je moi. Oui, le pouvoir, on peut l'avoir. Comment on fait avec ça? Comment on gère? Est-ce qu'on se laisse piéger par le fait « Ah ouais, c'est moi qui décide » ou est-ce qu'on fait autrement? Il y a une dynamique qui est aussi une dynamique spirituelle derrière ces choses-là. On pourrait prendre comme exemple le plus évident, mais il ne faut pas le voir seulement comme loin de chez nous, mais à un moment, l'Empire romain exigeait que toutes les personnes qui vivaient sur son territoire adorent l'empereur. Vous voyez? Mais tous adoraient l'empereur. Bon, ça c'est cool parce qu'on ne se sent pas concerné, c'est pour ça que j'ai parlé de nos situations à nous. Nous avons une parcelle de pouvoir à partir de laquelle on peut abuser, on peut dominer les personnes d'une manière qui est absolument injuste. Donc voilà, ça c'est les puissances mauvaises. Puis un autre ennemi de la vie spirituelle, qui rejoint un peu ce que j'ai dit à la fin, c'est, nous lisons dans 1 Pierre, « Je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. » Alors la chair, elle aime bien tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent et ces choses-là. L'ennemi est aussi à l'intérieur de nous. Ce serait tellement cool s'il était seulement à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord pour dire qu'il est aussi à l'intérieur de nous? Ou est-ce que je vous fais une prédication à l'ancienne pour vous faire peur? Non, c'est vrai. Le Nouveau Testament appelle la chair et ses mauvais désirs. La chair, ce n'est pas une partie de notre être. La chair, c'est toute notre personne qui, au lieu de suivre la volonté de Dieu, se met au centre de tout, sans respect de Dieu et sans respect des autres. Ouais. La chair dit « tout pour moi, le reste pour les autres ». C'est l'apôtre Paul qui parle le mieux du combat, de l'action de la chair, notamment en Galates 5, mais aussi du fait que nous ne sommes pas esclaves de suivre les désirs de la chair, si nous acceptons de nous laisser conduire par les impulsions du Saint-Esprit. Ces deux catégories d'ennemis ont été vaincues par Jésus, je le dis en passant, notre bon berger à nous. Les puissances mauvaises ont été clouées sur la croix, et nous pouvons, par l'Esprit Saint, en nous, vivre selon Dieu et résister au moins en partie aux désirs de la chair. Dieu a ouvert une porte dans la prison qui était la chair. Quand nous faisions parfois ce que nous ne voulions pas et nous ne faisions pas ce que nous voulions. J'aime bien cette phrase. Ça résume bien l'œuvre de la chair en nous. Et je pense que ça, on peut tous comprendre. Hein. Je l'ai fait avec des jeunes de 6 ans, ils ont tout de suite compris de quoi je parlais. Quand les moniteurs d'école du dimanche m'ont gentiment demandé de parler du péché à ce groupe de 6-8 ans, j'étais là en me disant comment je m'y prends. Mais ils ont tout de suite compris quand on parlait de faire ce qu'on voulait pas faire, et ne pas faire ce qu'on voulait. Conclusion. On pourrait s'arrêter encore longtemps sur les diverses formes que prend la grâce de Dieu dans la vie du psalmiste. Mais il est temps de conclure. D'abord, deux conclusions. Celle du psalmiste lui-même. Au vu du passé et du présent, qui n'ont pas toujours été faciles à vivre, le psalmiste exprime sa confiance pour l'avenir. Le bonheur et la fidélité l'accompagneront, même dans les moments compliqués, je répète, même dans les moments compliqués, tous les jours de sa vie. Dans le passé de bénédiction, le psalmiste enracine sa foi en Dieu pour l'avenir. Ce qui suppose qu'il a regardé l'avenir, qu'il a pensé, qu'il a médité, qu'il a regardé en arrière. En fait, je pense que chacun d'entre nous a oublié une grande partie de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que nous ne sommes pas une culture où on nous invite à regarder en arrière. On nous dit qu'il faut toujours regarder en avant. Bon, l'apôtre Paul le dit aussi, mais pas de la même manière. Alors que Dieu nous demande de nous souvenir. Et notamment de nous souvenir, Dieu donne des fêtes à son peuple, Israël, pour que le peuple se rappelle. Pas juste pour prendre du bon temps, mais aussi pour se rappeler que Dieu a sorti le peuple d'Égypte, et choses pareilles. Ça m'a fait penser que on devrait fêter tous les ans l'anniversaire de notre baptême, mais moi je ne sais même plus à quelle date c'était, donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais vous voyez ce que je veux dire, se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Si on ne le fait pas, on oublie. C'est une démarche consciente où il faut regarder en arrière, se rappeler de ce que Dieu a fait, se rappeler des moments compliqués et comment on en est sorti, se rappeler de toutes sortes de choses que nous avons vécues grâce à Dieu pour fortifier notre espérance dans le futur. Deuxième conclusion du psalmiste, je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Le langage poétique n'est pas toujours d'une clarté éblouissante dans la Bible, mais d'après un certain nombre de commentateurs, il est permis de comprendre cette phrase ainsi. La grâce de Dieu se poursuivra au-delà de la mort. Alléluia. Et la dernière conclusion, c'est à nous, lecteurs, auditeurs de ce psaume, de nous la faire. Si ce texte se trouve dans le livre des Cantiques et Prières d'Israël, c'est que les gens ont très vite compris que ce psaume, même s'il représente le témoignage d'un individu, porte un message pour l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Il nous dit, mets ta confiance en Dieu, souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi, fais-lui confiance dans toutes les circonstances de ta vie, les moments joyeux comme les moments difficiles, laisse-le toujours être ton berger, ton guide, ta référence, ton Seigneur, ton centre, comme on l'a chanté avant, vous vous rappelez ? Attache-toi à lui, enracine ton existence en lui et découvre par ta propre expérience qu'il est au fil du temps ce berger qui te conduit, te garde, te nourrit, te fortifie. Nous pouvons aussi méditer cette belle image du berger en nous souvenant que Jésus la reprend dans la parabole de la brebis égarée, en Luc 15, ou dans le chapitre de l'évangile de Jean, où il se présente comme le bon berger. Et pas comme un berger mercenaire. Hein. Découvrons et redécouvrons que le berger de ce psaume est venu à nous au travers de Jésus pour nous rencontrer, pour partager notre vie. Et donc que la personne de Jésus et son œuvre soient enracinées en nous pour nous permettre de regarder l'avenir avec confiance. Quelles que soient les circonstances que nous traversons actuellement. Amen.